Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes actuellement sur la 94.9 FM sur Graphite et vous écoutez la saison 2, épisode 3, épisode spécial de Coup Critics, l'émission qui parle de livres, de BD et de mangas à peu près toutes les deux semaines. J'ai avec moi Harry Potter sans lunettes, enfin avec des lunettes qui servent à rien, Samy, le petit président Melwan, le génie de la lampe Mathieu et moi-même bien sûr, la fan de K-pop, Aeva. Bonjour à tous. Vous pouvez parler les autres si vous voulez.
Bonjour.
Bonjour. Pourquoi tu parles en mon nom à chaque fois?
Nous sommes tous membres de la BD Medec, une secte entre autres, de la bibliothèque
des bâtissiers
des étudiants de Compiègne. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram pour suivre notre actualité et bien évidemment à la bibliothèque universitaire de UTC. Aujourd'hui, émission très spéciale, on fait une petite rétrospective d'un des mangas les plus populaires du moment qui s'est achevé très récemment. Je parle bien entendu de...
Jujutsu Kaisen. Youpi.
Que nous avons tous lu autour de la table, bien sûr.
Oui. Hein.
Attention aux spoilers et préparez-vous pour une heure d'émission par des fans, pour des fans et surtout pleine de mauvaise foi, bien sûr. Mais avant de commencer... Petit retour sur ce qu'est Jujutsu Kaisen. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire combat de sorcellerie. Et c'est un manga de shonen de Gege Akutami. Et ça reste aujourd'hui son seul grand succès. Donc en fait, c'est très récent, Jujutsu Kaisen. Ça a été prépublié de manière hebdomadaire entre mars 2018. Et ça s'est arrêté donc il y a un ou deux mois, en septembre 2024. Et c'était prépublié évidemment dans le Weekly Shonen Jump. Et donc le manga a connu une adaptation animée qui a eu énormément de succès et aussi un film d'animation. Tout ça a été animé par le studio MAPPA, mais je pense que vous êtes tous au courant. Donc, en tout, dans Jujutsu Kaisen, il me semble qu'il y a 28 tomes, si je dis pas de bêtises.
Un peu plus.
29
que... Je sais pas.
Je crois qu'il y en a 29.
Je sais pas.
Bah, les tomes sortent encore, je crois. Donc...
Non, mais ouais. En tout cas, il y en a 28 publiés au Japon, et bientôt, ils seront tous publiés en France.
Ouais, c'est ça, une trentaine de tomes, quoi, en tout.
Donc, la seule statistique, on va dire, vérifiée que j'ai pu trouver sur Internet pour vous montrer le succès de Jujutsu Kaisen, c'est qu'aujourd'hui, en septembre 2024, il y a eu 100 millions d'exemplaires vendus, ce qui est énormissime. Pour vous mettre dans l'ambiance du manga, je vais quand même faire un petit synopsis, tout droit copié de Manga News, comme ça j'ai pas eu à la rédiger. C'est
super.
Parti. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regret, humiliation, leurs accumulations dans un même endroit provoquent des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas en fantômes, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour les missions du groupe. Jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire des monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Ah bon. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition, trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme. Mais avant de continuer l'émission, une petite pause musicale avec, il me semble, l'opening, le premier opening de la première saison de Jujutsu Kaisen,
ouais.
Dont je ne connais pas le nom.
C'est Kai Kai Kitan de Eve, le groupe, je crois.
Ok, donc c'est parti. Bon retour, comment on va s'organiser cette émission. Donc en fait on va revenir sur le manga arc par arc, sauf pour le premier parce qu'on a préféré, on va dire, tous les condenser en une seule partie. Et donc on va faire un petit résumé puis on va dire ce qu'on pense, hein. Vraiment c'est une émission pour les fans de Jujutsu Kaisen finalement.
Ouais, ça c'est vraiment pour donner notre avis, pouvoir en discuter un peu tous ensemble, vu que le manga est fini, qu'on a tous pu parler de tout ça.
Qu'on a tous adoré normalement, je regarde les autres.
Moi oui.
Oui, oui.
Moi aussi.
Ouais. Bon, allez, hop. Oula.
On va pouvoir avoir.
On va en parler.
Donc, je vais commencer
sur ce qu'on aime.
Par le tout début. Donc, après le synopsis, qu'est-ce qui se passe? Donc, Yuji arrive à l'école d'exorcisme. Il rencontre ses petits copains, donc Megumi, le mec aux cheveux noirs mystérieux, et Nobara.
Globalement, c'est le trio de Naruto, mais à une nouvelle sauce.
Voilà. Et en gros, ils s'embarquent dans leur première mission, qui est l'exorcisme d'un petit esprit. Donc ça, c'est vraiment le tout début du manga. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, mesdames?
Très classique, hein. Honnêtement, pas grand-chose à dire.
Allez, tais-toi, à toi. Allez, va rappeler quelque chose de plus intéressant à nous dire.
Non, le tout début du manga, bah, alors c'est vrai qu'il est assez classique, ça, c'est pas super choquant. Maintenant, je trouve que ça présente bien les personnages et ça présente bien un peu aussi la dualité que va être Jujutsu Kaisen un peu jusqu'au bout, ou en tout cas jusqu'à un moment assez tard, parce qu'il y a plein de choses assez glauques, assez horribles, dégueulasses, des morts, des monstres, etc. Mais à côté, il y a quand même des choses très fun, très drôles, très rigolotes, des personnages hauts en couleur, et en plus, ça présente bien les personnages qui vont être vraiment hyper importants pour toute la suite du manga, donc le trio principal et Gojo, surtout.
Bah non, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, je sais pas comment dire, en fait, ça commence comme un shonen normal. On voit que ça peut être très violent, mais on se dit pas que ça peut partir aussi loin que ça va partir. Après, on va vite passer sur le début, parce que, en vrai, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une introduction qui présage, enfin, qui montre pas du tout à quel point ça va être bien après. Donc, moi, je trouve que c'est un début calme. On se dit, ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Mais en vrai, ce qui va vraiment apporter la popularité au manga, pour moi, c'est pas ce début-là.
Non, c'est, mais bon. Je suis bien d'accord.
Donc, sauf à part si vous dire quelque chose. Ah, vas-y.
Si je peux ajouter une petite chose sur le début, c'est que. Pour moi, la première fois que j'ai lu, ça m'a principalement rappelé Naruto, du coup, comme on l'a évoqué. Ça m'a aussi beaucoup rappelé un peu le début de Chainsaw Man. Peut-être que vous avez lu.
Ouais, c'est... mais je vois pas en quoi ça rappelle.
Moi non plus.
Non, mais attendez, laissez-moi vous expliquer.
Bien sûr.
Genre, par exemple, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit une vie normale, qui est possédé par un démon et qui est mis à mort par une société dont il n'avait même pas dont il ne connaissait pas l'existence et qui est forcé pour travailler pour cette société pour sortir. Et je trouve que ce côté un peu Claymore, en mode. Il se bat contre les démons, mais il s'est lui-même aussi possédé par un démon. Il se retrouve un peu de chaque côté. Après, oui, Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen divergent sur beaucoup trop de points pour
que cette comparaison reste. C'est difficilement comparable, mais.
Pour que cette comparaison reste sur la suite de l'émission. Mais je tenais quand même à le souligner, c'est un peu les premières pensées que j'ai eues au début du manga.
Je finirai par une dernière chose, c'est que moi, ce que j'ai vraiment aimé après avoir eu connaissance de la suite, c'est qu'au début, on présente vraiment Sukuna comme un être faible, puisqu'il se fait, pour ceux qui ont lu le manga, il se fait exploser par Gojo au début. Et en fait. Ben, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien après réflexion. Donc, en fait, la suite, pas vraiment un arc, mais on va découvrir petit à petit les principaux méchants, enfin ceux qu'on croit les méchants au début. Donc, en fait, ce sont des esprits maudits, et notamment des esprits maudits, on va dire. En fait, t'as raison, c'est un peu comme un Chainsaw Man. Les fléaux, ça représente un peu les peurs des hommes. Et donc, en fait, les méchants, on va dire, au début, ce sont les éléments naturels. Donc, il y a Anami, j'ai mis que c'était un arbre. Il y a le monsieur volcan, donc c'est Jogo. Il y a la mer, au début on le voit pas trop, c'est une sorte de crustacé, mais en fait c'est une sorte de un peu de créature de Lovecraft. Et il y a un mystérieux personnage qui a l'air d'être
moine un peu physiquement, il l'habille un peu comme un moine, on dirait que c'est un exorciste.
Voilà, c'est ça.
Il est un peu sombre, il est un peu méchant.
On voit que c'est un peu le mec qui est derrière tout. Et le vrai premier méchant, c'est Maito, si vous vous rappelez de lui. Alors lui, je crois que c'est le fléau, je crois que c'est un humain. Enfin,
c'est l'humanité.
C'est ça, ouais, c'est l'humanité.
C'est ça, ouais.
Et lui, il a un pouvoir très particulier, c'est qu'il peut modifier l'âme des gens. Donc comment est-ce qu'il se rend compte d'abord? Il me semble qu'on les voit et ils décident. Leur plan, en fait, c'est de remplacer les humains par des fléaux. Et pour ça, ils disent qu'ils ont besoin de Sukuna. Et c'est pour ça qu'ils vont s'en prendre à Itadori. Pourquoi ils ont besoin de Sukuna? Parce que Sukuna, c'est le roi des fléaux, il est hyper fort, donc il peut tuer tout le monde. Et donc on a besoin de lui. Et donc c'est le tout début. Donc d'abord, on va rencontrer Jogo. Quand il va affronter Gojo et qu'il va se faire exploser, je sais pas si vous vous rappelez de ça.
Oui.
Bon voilà, mais en vrai c'était rigolo.
C'était l'ennemi du tuto d'un jeu.
Exactement.
c'est
pour s'en compte à quel point Gojo est fort finalement. Vas-y, tu veux dire quelque chose?
Moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, quand on rencontre ces quelques personnages-là, qui sont du coup les fléaux des astres naturels, on les rencontre dans un contexte qui les rend très humains, c'est-à-dire qu'ils vont aller discuter de leur plan dans un café, commander un café, avant de mettre le café en feu. Mais ces personnages-là, du coup, veulent faire ce qu'ils font parce qu'ils se considèrent comme étant réellement des humains. En incarnant des peurs personnifiées des humains, ils vont considérer qu'ils sont des humains comme plus purs et plus parfaits. Et ce côté-là, on va le retrouver souvent en les voyant souvent dans des scènes, du coup, très humaines, en train de prendre des pauses à la plage, dans des cafés. À l'inverse de nos protagonistes qui, eux, vont tout le temps être un peu dans des Situation chelou.
Non, et puis surtout, t'as raison sur un truc, c'est. En fait, Jogo, au début, on a l'impression que c'est un gros débile et on l'aime pas forcément. Enfin, moi, au début, quand je le vois se faire exploser par Gojo, j'avoue, j'étais en mode, bon, on s'en fout de lui. Mais au final, bon, on en parlera après dans leur préféré de. Après que, Gojo, que Jogo soit fait exploser par Gojo, il se fait sauver par un ami. Donc, c'est la forêt qui va être très important. Enfin, qui est aussi un personnage trop stylé. Et après, c'est le moment. Alors, ça, c'est un petit moment, je pense que vous en souvenez tous de loin. En gros, il y a Maito qui est introduit et il va manipuler un mec qui est tout seul, qui se fait un peu racketter par ses élèves. Et il va le transformer le temps d'un soir en exorciste, finalement. Mm-hmm. Voilà. Et on, là, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit. Au début de l'arc, on se dit « Oh, Maito, il est gentil, il vient en aide aux gens. » En fait, non, c'est un gros manipulateur. Il manipule donc ce type qui s'appelle Junpei et il finit par le tuer et le sacrifier. Tout ça pour affronter Yuji parce que, en vrai, Maito n'en a absolument rien à faire des vies humaines. Voilà. Donc tout ça pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de Maito, qu'est-ce que vous avez pensé de son combat. Ah oui, juste avant, c'est le premier moment où on observe, alors malheureusement je ne l'ai pas pris dans mes notes, mais le système on va dire de pouvoir de Jutsu Kaisen, qui est l'extension de territoire, et je crois que c'est la première extension, c'est la deuxième extension de territoire. Mais...
En fait pour le pouvoir de Jutsu Kaisen, en gros c'est, je dirais plutôt que le système de pouvoir c'est basé sur l'énergie occulte, qui circule un peu dans tous les êtres vivants. Simplement, les humains normaux ne sont pas capables de la retenir. Elle s'échappe de leur corps et c'est ça qui va créer avec les émotions négatives, les fléaux. Et les exorcistes sont capables de retenir cette énergie occulte en eux pour pouvoir la manipuler. Et s'ils ont un suffisamment bon terrain génétique de base, ils vont pouvoir faire des sorts stylés et des extensions du territoire et des trucs de ouf.
En fait, ce que j'aime bien dans toute cette première partie un peu de JJK, c'est le fait que Yuji, c'est pas le prodige. Il fait pas avancer le truc, il fait pas... sortir les grands méchants de leur ombre pour qu'ils commencent à attaquer l'école. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais les schémas classiques, c'est vraiment le protagoniste qui fait avancer l'histoire et qui donne des. De quoi ?
T'as rien compris à l'histoire.
Mais non, mais là, dans le début, Yuji est pas forcément le.
Si. Parce qu'il. Bah, si, par exemple, l'arc dont je vais parler juste après.
Oui, après.
Bah, au tout début, c'est l'introduction, mais dans Naruto, c'est pareil.
Bah, dans Naruto, pas tellement. Enfin, je trouve que Yuji a un rôle quand même. Je dirais pas passif, mais il s'entraîne et puis il fait de son mieux pour aider les exercices à côté.
C'est pas un prodige en fait.
Ouais, voilà.
C'est pas un prodige. C'est sûr.
Comparé à tous les exercices qu'on va voir, surtout au début, on va voir qu'ils ont beaucoup de sorts incroyables. Sauf que dû au système de sorts dans ce manga, quand tu n'as pas le sort de ta famille, tu n'as rien.
Oui, alors ça c'est vrai, mais d'un autre côté, je reviens sur ça, j'ai l'impression que les personnages principaux sont rarement des prodiges. Là, le prodige, ce serait plutôt Megumi dans l'idée. Ouais. Et comme dans Naruto, bah, c'est Sasuke le prodige, c'est pas Naruto.
C'est la même chose, moi,
et pour moi, les personnages principaux sont rarement des prodiges parce que c'est plus intéressant de suivre un personnage qui va galérer, qui va avancer, qui va progresser, faire des efforts, etc.
Moi, je suis pas d'accord avec toi,
se confronter à la difficulté. Et voilà, après, Yuji, c'est encore différent. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant et attachant dans le personnage de Yuji, c'est que. Bah en fait il est rigolo, il est sympa, il a vraiment bon fond, il est en fait dans sa tête dans sa tête il se prend un peu pour un personnage de shonen, mais bon, c'est ce qu'il est en même temps, mais il est en mode oui je vais utiliser mon pouvoir pour faire le bien, mourir d'une manière digne, etc. Il y a toute cette partie là et en fait après il se rend vite compte que bah la réalité est bien plus dure et que c'est pas parce qu'on est rempli de bonnes intentions et plein de courage que devant le fait accompli c'est aussi facile que ça.
Ce que j'essaie de dire c'est plutôt que Yuji est il a Sukuna, donc t'as les gens qui vont essayer de tout le monde s'en fout un peu de Yuji au début, c'est plus Megumi, et j'aime un peu ça.
Pas du tout d'accord, mais bon. Chacun sa vision, moi je suis vraiment pas du tout d'accord.
Genre c'est pas le chouchou, enfin genre je sais pas trop
Par exemple dès le début, là justement, la première rencontre avec Maito dit clairement que la personne qui veut tuer, c'est Yuji.
Oui, à part Maito, mais à part Maito où c'est un peu particulier, je dirais, ils s'en battent les couilles de Yuji.
L'arc d'après, c'est le grand classique, l'arc du tournoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça ? Alors peut-être, j'explique comment se passe le tournoi. Donc en gros, l'école d'exorcisme a deux branches. Tokyo, Kyoto. Ils doivent tuer des esprits. Et voilà, c'est la bagarre. Ils se font stopper par Hanami, donc l'esprit de l'arbre, l'esprit de la forêt, l'esprit de la nature, qui fait diversion en gros, pendant que Maito va dérober des reliques.
Bah honnêtement, personnellement, je soufflais parce que le tournoi, je le trouvais pas si passionnant que ça.
Ouais, non, moi non plus, j'ai pas trop beaucoup aimé le. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé le moment du tournoi, c'est que j'étais un peu en mode ouais. En vrai, c'était sympa parce qu'on a pu voir des pouvoirs, on a pu rencontrer d'autres personnages.
Ouais, c'est clair.
Et ça, c'était cool. Et voir un peu l'étendue du pouvoir du Gojo, c'est ça qui était vraiment intéressant aussi.
Ouais.
Mais Bon, puis le truc de baseball après, pas ouf.
On a quand même l'introduction du meilleur personnage du manga, à savoir Aoi, avec son Oogie Oogie.
C'est vrai.
Ça, je suis désolé.
Aoi Todo.
On peut pas oublier Todo. Ce personnage qui est quand même introduit dans ce moment-là. Et clair. Qui va à l'encontre de sa propre équipe juste pour fraterniser avec Yuji sur une question. Qui était quel est ton type de fille préférée?
Ouais,
c'était ridicule, mais c'était incroyable.
Ouais,
c'est vrai
qu'en dehors de ça, en fait, j'ai pas trop été investi dans certains trucs. Il y avait, on commençait à nous parler, je crois, des problèmes familiaux de Maki un peu.
Oui, mais en fait, le problème de l'arc, surtout, c'est on est obligé de faire la comparaison avec les autres shonen. Donc, par exemple, avec Naruto, c'est que les combats secondaires, on a rien à faire en fait. Enfin, moi, j'ai relu le truc. Donc en gros, chaque élève de Tokyo va affronter un élève de Kyoto.
Ouais.
Honnêtement, les combats, moi je les passais rapidement, j'en avais rien à faire. Je voulais juste voir Todo et...
Et puis
après, ils affrontent un ami. Et on voulait voir le personnage qu'on aime bien, là, le mec avec les cheveux blancs qui, quand il parle, il fait des pouvoirs.
Ouais.
Là, voilà.
Togi, ouais.
Un ami, l'esprit de la forêt, arrive, fait une énorme diversion. Pendant que Maito va... En fait, l'objectif des fléaux, c'est de récupérer des alliés. Pour récupérer des alliés, en fait, ils viennent dérober des reliques qui sont des sortes de fusion entre un esprit et un humain. Et il vient dérober trois reliques qui sont Chozo. Alors lui, c'est sûr que vous savez qui c'est.
Bien sûr.
Bien sûr.
Eto et Keshizu. Alors peut-être que eux vous en souvenez pas. C'est très simple parce que l'arc d'après il meurt. Voilà.
Ils sont un peu oubliables quand même.
C'est ça. Donc en fait, ça s'appelle des fœtus des neuf phases. Et c'est des. C'est ça. C'est des fusions entre des humains et des
fléaux.
Et des fléaux. Il y en a neuf en tout apparemment. Et eux, c'est les trois premiers. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il envoie Eto et Keshizu à la recherche d'un des doigts de Sukuna. Ils se fritent avec Itadori et ses potes. Ils meurent tous. Et voilà, en gros.
En gros, c'est ça.
Bon, c'est très OZ, donc peut-être qu'on va passer. Enfin, si, le seul truc important, c'est qu'on comprend qu'Itadori, il est très empathique et qu'il commence peut-être à se rendre compte que. En fait, quand il tue Eto et Keshizu, il se rend compte qu'ils ont des émotions contrairement aux autres fléaux, puisque c'est pas des fléaux, justement.
Je crois qu'ils ont aussi du sang.
Les deux, ce sont des mi-humains, mi-fléaux, en fait.
Ouais, du coup,
ils ont dû choisir leur camp entre les humains et les fléaux, et ils ont jugé que le camp des fléaux était meilleur pour eux. Parce que les humains allaient être trop dégoûtés d'eux, en quelque sorte, et qu'ils avaient encore moins leur place chez les humains. Mais voilà. Et du coup, rapidement, on se retrouve parmi les trois fléaux des neuf phases, les trois fœtus, là. On se retrouve qu'avec Chozo, qui va être un personnage très important, jusqu'à la fin du manga.
Donc, avant juste de passer à l'arc et après il y aura une pause, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est la première saison de l'anime, donc on peut peut-être juste parler de l'anime très rapidement.
Ouais.
Je pense que vous l'avez tous vu.
Bien sûr.
Oui.
Vas-y, Samy.
Oh, moi, je suis le seul qui n'a pas vu l'anime. Hein.
Ah, ok.
J'ai vraiment fait
l'erreur d'Aïba.
Ok, désolé. Pour le coup,
si vous voulez, on peut passer très rapidement sur le manga avant l'anime.
Ouais.
Vas-y.
Bien sûr.
Pour le coup, le manga, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que entre chaque page, enfin entre chaque chapitre, Gege du coup aimait bien justifier un petit peu ses choix pour le power scaling et pour les techniques. Et en fait, on se rend compte que, en fait, il est passionné de maths.
Et il est tout pas très bon du coup.
Il est passionné de maths tout en n'y connaissant rien. Et pour le coup, pour le fun fact, il a déjà demandé à des ingénieurs de venir l'aider pour savoir si ce qu'il disait ça avait un petit sens ou pas du tout.
Et des fois, à un moment, il a même écrit du coup, ce que j'ai écrit ça avait aucun sens. Mais. Et en fait, c'est pour justifier les pouvoirs de chaque personnage. Il aime bien trouver des justifications, mais des fois, je me dis carrément, c'est pas la peine. Enfin, arrête.
Au moins, il fait très attention aux pouvoirs, leurs effets et leurs limitations aussi.
C'est ça. Mais je trouve que c'est aussi un trait de l'auteur en fait qu'on retrouve pendant tout le manga. C'est le fait que ça sent qu'il est intéressé par des sujets spécifiques et il les fout un peu. Un peu comme ça, un peu où il peut dans le manga. À un moment, on va avoir des personnages qui vont avoir des pouvoirs liés à l'animation, liés à la lumière. À un moment, on a des personnages, c'est un putain de criquet. À un moment, et à chaque fois, c'est des choses comme ça, un peu diverses et qui détaillent plutôt bien. On a toute une partie sur le sumo, sur le katana. Et c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir plein de... petites choses éparpillées. Alors, intéressant, bien fait ou pas, ça, je sais pas. Mais... en tout cas, je trouve ça... moi, j'aime bien, en vrai. Pour un peu clore cette partie sur les premiers arcs de Jujutsu Kaisen, moi, je dirais que c'est une bonne entrée en matière. On rencontre de nouveaux personnages. On s'y attache vraiment plutôt bien parce que l'ambiance est assez drôle et quand même assez légère, malgré le côté plutôt glauque et global de l'histoire. On est tout de suite accroché par tous les trucs avec les doigts retrouvés. L'autre, il est condamné à mort. Et puis, il y a des pouvoirs un peu divers. Mais pour moi, l'intérêt de l'histoire se situe vraiment après.
Ouais, c'est ça. Bah, en plus, comment dire, après, il y a plusieurs autres techniques qui sont utilisées, bah, notamment les techniques avec l'animation, le katana, le dojo, etc. Mais ensuite, il détaille un peu plus au niveau des territoires, au niveau de l'utilisation de l'énergie occulte, avec justement les... Donc c'est en soi, au début, très basique, quelque chose où on se perd absolument pas. C'est, on l'a même vu plusieurs fois avant. Mais plus ça avance dans la suite, plus on se rend compte que c'est pas mal réfléchi quand même. Donc voilà.
Bon, du coup, rapidement, l'animé, c'est exactement pareil. Moi, je l'ai vu. En fait, j'ai commencé par l'animé. J'ai trouvé ça... En vrai, j'ai trouvé ça moyen. Voilà.
Ok.
Honnêtement.
Ouais, bah. Après,
j'étais en mode, bon, je vais pas continuer. Mais voilà. Le début de la deuxième saison, c'est l'arc des trésors cachés, l'arc de la jeunesse de Gojo. Bon, petit résumé. Voilà. En gros, le maître des exorcistes, c'est un mec qui s'appelle Tengen, il est immortel. Sauf qu'en fait, il est pas immortel. Bah, comme tous les mecs qui sont immortels, il doit sacrifier une jeune fille ou un jeune homme. En gros, c'est
comment
ça,
ça, gros, c'est ça. Comme tous les mecs qui sont immortels.
Bah, Orochimaru, c'est pareil avec Sasuke, en gros.
C'est ce qui se passe souvent pour les immortels. Voilà,
Ok.
Et alors, et bah, cette jeune fille, c'est le plasma stellaire. On n'a aucune idée de pourquoi elle s'appelle comme ça. Riku Amanai ou Amane ou Amane, je ne sais pas.
C'est Riku Amanai, je pense.
Et de la protéger contre différents groupes qui veulent sa mort.
Oui, c'est ça.
Donc, un groupe religieux Osef. En fait, les groupes qui veulent sa mort sont Osef, mais... Ces groupes vont
engager
un fameux chasseur de primes qui s'appelle,
Shuji.
Voilà, Melwan Zero.
J'étais sur le point de dire
Toyo. Je crois qu'Aiva a quelque chose à dire.
Ah, moi, bah, j'ai dit que c'était le personnage le plus cool et le plus beau, c'était Toyo.
Voilà, c'est la réflexion qu'a eu Aiva.
Non, c'est pas vrai.
C'est bon, Aiva, on peut
pas dire. C'est pas vrai. Oh, stop. Non, parce qu'en fait, ce personnage, on le voit comme ça au début dans l'arc, il paye pas de mine. Enfin, il est très fort, il est stylé et tout. La musique, elle est cool, il tabasse tout le monde, bref. Très stylé. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte à ce moment-là, c'est l'impact énorme sur toute la suite du plot et sur toute la suite de l'histoire qu'il va avoir. Et on se rend vraiment pas du tout compte tout de suite. Alors
juste avant que tu dises ce que tu penses sur Toji, explique peut-être qui il est exactement, quels sont ses pouvoirs.
Oui, alors en fait, Toji, c'est un personnage un peu particulier puisque ce n'est pas un exorciste et ce n'est pas vraiment un humain normal non plus. Parce qu'en fait, il n'a pas du tout d'énergie occulte au final. Ce qui fait qu'il ne peut pas voir les fléaux, il ne peut pas manipuler l'énergie occulte. Mais par contre, en parallèle de ça, il a acquis une force physique immense, c'est un peu un surhomme en fait. C'est clairement un surhomme au niveau de ses sens qui sont beaucoup plus développés que les autres, ce qui fait qu'en fait il peut repérer les fléaux sans les voir en sentant des mouvements dans l'air ou que sais-je. lui, il est né dans l'un des plus grands clans d'exorcisme de cet univers-là. Le clan des Zénines, sauf qu'en fait il a toujours été rejeté et maltraité par le clan parce qu'il n'a pas les pouvoirs héréditaires du clan, mais à côté il a cette grande force et donc maintenant ce qu'il fait c'est qu'il est, chasseur de primes, il tue des exorcistes, il fait ce qu'on lui demande, il gagne de l'argent comme ça et il vit un peu comme un vagabond.
T'as oublié quand même de préciser quelque chose de très important.
Oui, j'ai pas précisé quelque chose de très important, c'est qu'on apprend que c'est en fait le père de l'un des personnages principaux, à savoir Megumi.
C'est Tsukibi, ça, en gros.
Ouais. Et on apprend donc que c'est son père, et Megumi ne le connaît pas du tout. Il n'a jamais vraiment connu son père, en réalité, vu qu'il est parti, il l'a abandonné, en fait, étant très jeune.
Après, une petite question. Alors, justement, moi, je trouvais ça très intéressant. Dans la suite, on le voit plus. C'est vrai qu'il est présenté comme méprisé par son clan, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est de la peur. En fait, quand tu continues, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de membres du clan qui, en fait, ont très peur de lui.
Moi, ce que je voulais surtout souligner, c'est que depuis le début du manga, on voyait... Je fais une petite aparté. On voyait Gojo comme quelqu'un d'absolument invincible, et Toji, quand il est introduit, dit, premièrement, qu'il va réussir à gérer Gojo.
Tout en étant
défini comme quelqu'un qui n'a pas d'énergie occulte. Du coup, globalement, ce qui se passe dans la suite de cette partie, c'est qu'on va pouvoir suivre Geto et Gojo qui vont faire les gardes du corps de Rika.
Ah, c'est ce que...
Qui, du coup, doit être protégé jusqu'à ce que Tengen soit en capacité de l'absorber. Et on voit du coup un peu leur côté un peu humain. Parce que, de base, ils la protègent pour pouvoir un peu la sacrifier ensuite. Mais on les voit qui... malgré du coup leur grand sens du devoir, commencent à réfléchir à la possibilité s'il n'y a pas d'autre option à cela. Donc toute cette partie, ça montre un petit peu une grosse introspection sur les personnages, sur qui ils sont, sur comment marche le monde de la sorcellerie aussi. Ouais, de voir que malgré le fait qu'ils protègent la population, qui se doute de rien, ils font aussi des actions un peu inavouables et un petit peu dégueulasses dans le fond.
Oui.
Bon, contre toute attente.
La conclusion de cet arc, c'est Toji.
Oui, on va revenir sur Toji parce que
c'est le meilleur.
C'est le MVP de l'arc.
Écoutez, les amis, c'est un homme parfait. Voilà, c'est dit.
Mais
ça.
On s'en fout.
C'est dit. Mais non, mais par contre, ce qui est intéressant à dire, c'est comment ça finit.
Ouais.
C'est que Toji, comme a dit Samy, Toji, bon, non. arrive à battre Gojo,
ouais.
arrive à battre Geto, qui est l'ami de Gojo, et tue Rika. Bim.
Ouais.
Et là, on se dit, mais c'est la fin.
Mais non, c'est pas la fin.
Gojo, je déteste. En fait, il est encore vivant, le gars. Bref, il... technique de ressuscitation, c'est pas Francesco.
Résurrection.
C'est pire que ça. C'est, il a profité de son expérience de mort imminente pour avoir une vue plus profonde sur ce que c'est l'énergie occulte. Et il a su comment l'inverser. Attention, explication de Guégué, parce que l'énergie occulte, c'est négatif. Négatif ou négatif, c'est positif. Donc, quand tu multiplies de l'énergie par de l'énergie, ça fait qu'on peut soigner.
Ouais, voilà. Et on a tout compris du coup.
Bon, bref, et finalement, moi j'étais dégoûté. Gojo bat Toji, c'était nul, c'est comme ça. Voilà.
Mais sur les mots de, derniers mots de Toji, il lui demande de prendre soin de son fils Megumi.
Ah oui, voilà.
Et quand même, c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à sentir une énorme distance entre les deux.
Okay. Bon. Je sais pas ce que t'allais dire. Moi,
entre
ce que
les deux
dire,
quoi
que...
Entre Gojo et Geto, justement.
Ah oui, c'est à partir de ce moment-là que la distance entre les deux commence à se creuser et qu'on commence en fait petit à petit à comprendre ce qui les a éloignés et ce qui a fait que Geto est devenu le méchant qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on semble connaître aujourd'hui. Et en fait, ce que j'aime bien aussi dans cet arc, c'est qu'on comprend pourquoi Gojo il est comme il est, pourquoi est-ce qu'il a choisi d'être enseignant, pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec ses élèves. C'est aussi parce qu'il était, enfin, il reste très marqué en fait de ce qui s'est passé avec Rico Rico.
Ah ouais, c'est Rico.
Ouais. Et de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et surtout, on découvre le personnage de Toji qui est un personnage clé en fait de l'intrigue. Et que ce soit pour l'intrigue qu'on a ou même dans le monde de l'exorcisme en fait. En fait, si on lit bien, on se rend compte qu'il y a un rôle très important. En fait.
Ça, c'est le tout début de la saison 2. Et c'est le vrai. Je pense le vrai déclic de la série.
Ouais, c'est clair.
Le moment où la série commence vraiment bien, je crois que c'est aussi le moment où elle commence à devenir vraiment vraiment populaire, à mon avis.
Ouais, peut-être.
Parce qu'à mon avis avant c'était bien, mais en plus.
Oh, moi j'avais adoré la saison 1, mais j'étais la seule apparemment.
La suite est encore mieux peut-être. Donc avant de parler de la suite, petite pause musicale avec, je pense, c'est le premier ending de la première saison. Bon retour. Et on va commencer à l'arc préféré d'Aiva. C'est pour ça que je ne vais pas lui laisser la parole une seule seconde.
Bien sûr.
Cet arc, c'est le drame de Shibuya. Et je vais vous en faire un petit résumé très rapide. Après le tournoi OZEF. Non, je déconne. Bon, en gros, très rapidement, les fléaux, ils sont méchants. Ils ont un plan pour bloquer Gojo et faire libérer Sukuna. Et ils appliquent ce plan le jour d'Halloween, le 31 octobre. C'est ça l'histoire.
Ouais.
Et ils vont réussir.
Et ils vont réussir.
Et voilà.
C'est marrant parce que du coup, on ne connaît pas le plan au début et on se demande. Comme à chaque fois qu'en fait, quelque chose peut atteindre Gojo, qui est dépeint comme quelqu'un de complètement intestable et limite immortel.
C'est clair.
À chaque fois, on ne sait pas, comme Toji l'a annoncé, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont utiliser contre lui. Et c'est ça que je trouve très drôle, c'est qu'en fait, du coup, jusqu'à la fin, on est tenu en haine de ça va être quoi leur technique pour battre quelqu'un d'invincible.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, ça revient à un point qui est pour moi un peu un défaut du manga, ou qui pose un peu problème, c'est le power scaling, qui est complètement. Il y a des personnages qui sont trop forts, mais vraiment débilement forts. En fait, Gojo, il est présenté dès le départ comme le personnage le plus puissant de l'univers actuel et que personne ne peut le battre. Du coup, après. C'est compliqué de trouver des vrais moyens de le battre. Du coup, quand les méchants arrivent à enfermer Gojo dans la boîte, là, je pense que tout le monde a la référence.
La lisière du supplice.
La lisière du supplice. L'auteur il fait recours à un espèce de truc en mode oui, mais dans sa tête, il s'est passé une minute, alors qu'en vrai, il s'est passé 10 secondes
ou
je sais plus quoi.
Ah oui,
et en fait,
ce truc.
Pardon. J'adore Jujutsu Kaisen, ça c'est super bullshit, voilà.
Ouais.
C'est nul.
Bah non, attendez, moi je peux parler deux secondes. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils font plein de trucs pour berner Gojo. Et au dernier moment, il y a le vous savez, le sorcier dont vous a parlé, Geto, ce gourou qui arrive. Et en fait, Geto, il a l'apparence de son ancien ami.
Oui.
Et donc, Gojo, il est choqué. Il est choc-barre.
Parce qu'il est censé être mort, en fait. Et voir, c'est Gojo qui est censé l'avoir tué.
Moi, je trouve ça. Une minute, c'est vrai que c'est un peu long, mais bon.
Non, mais en fait, sa justification, le temps dans sa tête, c'est pas passé pareil que machin. Bon, ok, je comprends. Il fallait une bonne raison pour l'enfermer dans la boîte pour faire avancer l'histoire. Ouais. Parce que le problème, c'est que tant que Gojo est là, l'histoire ne peut pas avancer. Ouais. Parce que les autres gentils, ne peuvent pas être confrontés à des difficultés, ne peuvent pas se retrouver dans des situations, vu que Gojo est forcément là pour les sauver, puisque c'est le plus fort. Du coup, il fallait forcément l'enfermer. Et c'est pour ça qu'à partir de là, Gojo s'est retrouvé enfermé pendant plus de...
Un bon tiers du manga.
Oh ouais, je pense, hein, 150 chapitres peut-être, on a plusieurs années en termes d'apparition.
Qui est pas mal, moi j'ai bien aimé. Donc
mais moi j'ai adoré aussi. Hein.
Pour bloquer Gojo, les fléaux l'affrontent dans un endroit où il y a plein d'humains. Et on se dit quand même, enfin moi je me suis quand même dit à un moment, mais comment il va faire Gojo? Il va peut-être en sacrifier 5, enfin non, il va pas en sacrifier, moi je me suis dit carrément au début.
Ouais, ouais.
Et au final, ce qui se passe, c'est Gojo, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête. Enfin, moi, il me semble qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. On voit plutôt ça du point de vue des fléaux.
Ouais.
Et en fait, on se rend compte que Gojo, il est prêt à tout. Il n'en a absolument rien à faire. Et en fait, il massacre tout le monde.
Ouais,
enfin, il massacre pas tout le monde.
S'il doit sacrifier des gens, il en sacrifiera.
On n'a pas assez développé la dernière fois, parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est pour ça aussi que son ami était parti. Parce qu'en fait, Gojo est tellement fort qui n'arrive pas à se rendre compte en fait que les problèmes ont les autres, puisque lui peut tous les régler en un claquement de doigts avec son pouvoir.
Ouais, il y a de ça aussi. Et puis moi, enfin c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans Jujutsu Kaisen et ça se voit beaucoup dans Gojo, c'est le fait que les personnages ne soient pas, enfin les gentils sont pas non plus si gentils et si purs que ça non plus. Gojo, il va pas, enfin si il doit tuer des gens. Bah, c'est malheureux, mais il tuera des gens, quoi. Et il y en a qui n'ont pas forcément la vocation d'être exorciste pour sauver des gens, mais plus parce que c'est ce qu'ils savent faire, parce qu'ils aiment bien faire ça.
Ouais.
Et Gojo, c'est un peu ça aussi.
Bah,
quoi.
C'est clair que, bon, à part Yuji, il y a vraiment très peu de personnages qui sont présentés comme ça, et même justement, tout l'arc du passé de Gojo, c'était un peu pour nuancer ce truc de des gens qui sont là pour sauver tout le monde, parce que justement, dans cet arc, une fois que Toji est arrivé et a mis une énorme fessée au personnage. Ouais. Ça faisait 5 épisodes, ils étaient présentés comme invincibles. À ce moment-là, déjà, on voit Geto qui remet tout en question, en soi. Mm-hmm. Enfin, plutôt, où tous les doutes qu'il avait, mais qui ne parlait pas de ces doutes-là, ils ressortent et ça fait qu'il a une mentalité qui est plutôt discriminatoire, on va dire.
Bon, et très rapidement aussi. Rapidement aussi, donc c'est ce que tu as écrit à Eva.
Ouais.
Je suis pas mal d'accord. En gros, le manga est déjà très bien, mais je trouve la deuxième saison, en fait, et finalement, elle est pas sortie il y a si longtemps que ça. Ce qui rend vraiment cet arc bien, c'est la deuxième saison en animé, je trouve.
Ouais.
Parce qu'en fait, peut-être que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plein de problèmes chez MAPPA, parce qu'ils étaient tous, ils avaient tous trop de travail. Mais l'animation est incroyable. En fait, ils ont rajouté plein de scènes. Moi, j'ai relu, donc j'ai aussi revu les scènes. Ils ont vraiment rajouté plein de scènes dans les combats, et ça rajoute vraiment quelque chose en plus. Parce que, bon, pour la faire très très courte, on va pas vous expliquer. Toji revient, il refait la bagarre. Sukuna, qui est à l'intérieur de Yuji, ressort et il fait aussi la bagarre. Et dans le manga, il fait la bagarre quatre pages,
aussi. Naito revient aussi.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les plus gros combats pour moi, c'est Toji.
Ah oui, totalement.
Et Sukuna, et ils font la bagarre, mais dans le manga, je sais pas, ça dure 4 pages, quoi.
Ouais.
Dans l'animé, ça dure 10 minutes. Donc, moi, je te dis, j'ai tout lu très rapidement. L'animé, ça dure vraiment beaucoup, beaucoup plus longtemps.
Oui, et il rajoute des scènes, il rajoute des éléments. Et il y a un vrai travail dans l'animé autour de la mise en scène, autour de la musique, autour des couleurs, autour de la chorégraphie des combats, qui est vachement bien et qui rend.
C'est incroyable.
Vraiment, c'est très, très beau à voir.
Mais en plus, déjà de base, dans le manga, j'ai trouvé que les combats étaient bien.
Tu vois, Toji, par exemple, j'ai relu juste avant de venir, le combat Toji Megumi dure vraiment 3 pages dans le manga. Et dans la vie, il dure 5 minutes.
Oui, non, mais bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est. Je parle de l'entrée, notamment de Toji, dans le domaine du crabe, là.
du fléau, là, oui.
Du fléau de la mer.
Oui, l'entrée, puis c'est.
Dagon, je crois, un truc comme ça.
Puis,
Dagon. Dagon.
Dagon.
Et puis c'est bien parce que ça perd pas de temps. Genre, le mec est.
Non, il arrive, il est.
Le mec arrive, il se bat tout le monde. Et puis si quelqu'un est mort, ils vont pas rester 50 minutes à faire un flashback ou un truc comme ça. C'est... Bon, il est mort, on passe au combat suivant.
Une dernière chose avant de passer au prochain arc, c'est. Je voulais revenir sur ce que tu avais dit. En fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, t'avais raison sur le power scaling. On se rend compte que Sukuna et Gojo sont extrêmement forts parce qu'ils explosent, par exemple, Jogo Donc, il y avait le Monsieur Volcan qui est présenté. Ouais. Au début, on pense qu'il est nul. Et en fait, dans cet arc-là, il explose absolument mais tous les autres exorcistes.
Jogo n'est pas nul du tout. Il est juste tombé sur les plus forts de la Terre en premier. Mais ouais, c'est ça. Après, cette histoire de power scaling, ça pose d'autres problèmes de cohérence plus tard dans le manga au niveau des combats, surtout vers la fin, que je trouve que même les stratégies qu'ils emploient, bon, on en reparlera, ont du mal à justifier ce qui se passe, mais c'est pas très grave.
Une dernière chose sur l'arc. C'est aussi l'arc où Nobara disparaît du manga sans raison.
Bah si, elle se fait
éclater la gueule.
Sans raison en termes de l'avancement du plot. Et ça, j'ai trouvé ça un peu décevant.
C'est vrai que le moment où elle revient, c'est
qui se passe, c'est qu'elle se fait. En fait, Maito, quand il touche les ânes, il peut changer le corps des gens. Et Maito va la one shot entre guillemets.
Oui, c'est ça. Elle se fait entre guillemets tuer par Maito, quoi.
Et c'est ce qu'on pense.
Moi, je trouve ça pas. Non, mais quand on connaît la suite, oui, certes. Mais je pense qu'à ce moment-là, je trouve que c'était un petit peu mal apporté, dans le sens où on commençait à avoir un plot qui se développait avec Nobara, avec une amie d'enfance qu'elle voulait retrouver, avec comment elle est réellement, et c'est elle disparaît du manga jusqu'aux trois derniers chapitres sans qu'on puisse jamais le revoir. Ouais. Et je trouve que c'était très mal apporté. Et
C'est vrai qu'en plus de ça, il y avait une grosse discontinuité par rapport au personnage. On était en mode. On a introduit
un trio
à la saison 1. À la saison 2, du coup, il y a un flashback qui fait que on ne voit plus le personnage, et elle revient et.
Le fait qu'elle revienne, c'est pas bien, mais moi ce que je trouve très bien, c'est justement de dire l'exorcisme, c'est pas pour les enfants. Oui, t'as un arc, t'es content, tu vis ta vie, mais il y a un moment où t'affrontes un immortel, et tu meurs et c'est la fin de ta vie.
Oui, non, mais bien évidemment, mais c'est juste que ça contredit un peu le schéma narratif.
C'est justement la fin. Donc la suite, en fait, ce qui se passe à la fin de l'arc de Shibuya, ils s'y font la bagarre, mais ils perdent la bagarre.
Ouais,
en gros, c'est ça. Et Geto Suguru, qui est en fait Maito, c'est pas du tout le méchant. C'est Geto Suguru, le faux exorciste.
C'est en fait Kenjaku, parce qu'il a pris le corps de Geto Suguru.
C'est un sorcier millénaire, il est vieux, il est mortel.
Exactement, et en fait, c'est le mastermind, au final, celui qui tire les ficelles, c'est lui, dans l'ombre. Et
il a le même objectif que l'ami de Gojo, au final, puisque ce qu'il veut, c'est que... Non, il veut que l'humanité évolue.
Il veut que l'humanité évolue, il veut la faire fusionner, il veut... En fait, il veut un petit peu expérimenter avec tout ce qui est possible de faire. Il se dit, allez, c'est fun, on va faire fusionner tous les humains, et on va voir pourquoi, et c'est marrant.
Donc, tu vois, technique, c'est qu'il va... Il va révéler les pouvoirs d'exorcisme de certaines personnes dans le Japon, il me semble. Ouais. Moi, j'avais lu ça juste là.
Voilà, c'est ça.
C'est pas vraiment ça.
Mais après,
c'est pas sa technique. En fait, lui, son pouvoir de base, c'est qu'il peut prendre son cerveau et le mettre dans un autre corps.
C'est pas sa technique, mais il utilise la technique de Maito.
Oui, il utilise la technique de Maito. En fait, c'est ça. En gros, il fait le changement d'âme, mais sur une portée immense. Et du coup, tous ceux qui sont capables de développer des pouvoirs d'exorciste, développeront des pouvoirs d'exorciste. Et à côté de ça, il va aussi, en parallèle, réincarner des exorcistes millénaires avec qui il a passé des pactes il y a des centaines d'années, pour les incarner dans des corps de pauvres gens qui n'ont rien demandé, en gros. Et pour créer un espèce de battle royale gigantesque.
Pour le fun.
Pour le fun.
Vraiment pour le fun.
Plus ou moins, dans des arènes. Bref.
Donc c'est l'arc de la... Traque meurtrière, les amis.
Exactement.
Là où j'ai plus rien compris au manga, au final. Donc voilà, si vous voulez en parler sans moi.
Non, justement, cet arc-là, on comprend rien au début, justement, parce qu'on ne sait pas ce que Kenjaku veut en réalité. Autant les désastres, on savait ce qu'il voulait car c'était à portée directe. Autant Kenjaku, en étant en sa bonne qualité de mastermind, on ne sait pas ce qu'il recherche et on ne sait pas c'est quoi son plan final. Du coup. Dans le prochain arc, on commence du coup sur ce qui s'appelle le Culling Game. Je sais pas comment se traduit en fait.
C'est la traque mortelle.
La traque mortelle, c'est ça.
La traque meurtrière, la traque mortelle, un truc comme ça.
Qui du coup va mettre en jeu tous les nouveaux exorcistes qui sont venus des conséquences du désastre de Shibuya et les faire se mettre sur la gueule un peu pour trouver les meilleurs. Globalement.
Avec un système de points qui fait que tu es obligé de te battre pendant. En fait, tu es obligé de continuer à te battre si tu veux vivre, sinon tu meurs.
C'est là où je me suis dit que ça ressemblait vraiment à Entering Center.
Oui.
Vraiment. En fait, ce délire-là de règles, de conditions, c'est comme Hunter x Hunter, vraiment.
Okay. Oui,
c'est vrai.
Ok, d'accord. Vas-y, continue.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est un peu le moment où on est un peu dans le flou quant à où le manga va aller. Là, la principale priorité, encore une fois, ça va être Gojo, car nos protagonistes vont avoir un peu pour le but de faire un plan pour essayer de sauver Gojo de sa prison.
Ouais.
Qui est un peu le seul moyen qu'ils ont d'avoir une chance.
Ouais, c'est pas pour le sauver lui tant que ça, en fait, c'est plutôt pour régler les problèmes.
C'est
parce
plutôt pour sauver leur cul
parce qu'en fait, Gojo est le seul ayant la force capable de régler tout ce merdier, en gros. Ouais. C'est pour ça qu'ils vont faire tant d'efforts pour essayer de le libérer et aussi pour également essayer de tenter de sauver la sœur de Megumi, qui est prisonnière d'un maléfice. Depuis un certain temps, en fait, elle est dans un espèce de coma, on ne sait pas trop pourquoi, à cause d'une malédiction. Et là, avec tout ce qui s'est passé à cause de Kenjaku, elle s'est éveillée à des pouvoirs et elle est obligée de participer à la traque meurtrière. Sauf qu'elle ne sait pas se battre, du coup Megumi a peur que sa sœur meure. Et leur objectif, du coup, c'est d'intégrer les arènes pour gagner des points, pour tenter de modifier les règles, pour de cette manière-là créer des brèches qui pourraient permettre à la sœur de Megumi de survivre et en même temps, en parallèle, d'arriver à sauver Gojo. Donc c'est vraiment ça l'objectif de l'arc de la traque mortelle. Sauf que si tout semble correctement se passer au début, il y a de la bagarre, des nouveaux personnages, des pouvoirs et tout, ça se passe pas si bien que ça au final.
Justement, parlons-en, c'est à partir de cet arc-là où le manga va nous introduire énormément, et vraiment j'insiste sur le énormément, de nouveaux personnages,
oui,
qui sont en fait du coup des exorcistes modernes, ils sont appelés dans le manga, et des exorcistes du coup anciens, des exorcistes qui viennent d'une époque révolue et qui sont revenus d'entre les morts, entre guillemets, sous la forme de reliques.
Exactement.
Et c'est, du coup, c'est à ce moment-là où les mangas prennent des dimensions complètement déraisonnées, car on a tous les exercices modernes qui ont des pouvoirs du coup très rapport avec la modernité.
Ouais.
On peut par exemple citer l'avocat qui peut te mettre dans une salle de jugement, juger tes crimes et te confisquer tes pouvoirs en fonction de la gravité de tes crimes.
Ouais.
Ce qui casse un petit peu le power scaling du manga, par exemple.
Bah ouais, de ouf, clairement.
Où on peut retrouver des exorcistes du coup anciens qui ont des poux qui étaient à chacune des époques différentes les plus forts de leur époque.
Ouais.
Il y en a un, par exemple, je pense, qui avait un canon sur ses cheveux, qui avait le plus gros pouvoir de destruction pour son époque, qui devait peut-être rivaliser avec le purple de Gojo. On ne sait pas trop, on les a jamais vus se battre. Mais non. Globalement, l'idée, c'est qu'on voit plein d'exorcistes au pouvoir plus ou moins what the fuck qui se mettent sur la gueule pendant un bon moment.
Et surtout dans cet arc, de toute façon, en soi, cet arc dure jusqu'à la fin un peu. Il est extrêmement long.
Ouais, plus ou moins.
Donc,
au moment, on peut dire qu'il y a une scission, mais en vrai, c'est dans la continuité.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu est quand même appliqué jusqu'à presque la fin du manga.
Ouais,
quoi.
C'est exactement ça.
Et du coup, on a aussi le retour de Yuta.
Ouais, totalement. Yuta, dont on n'a pas vraiment parlé jusque-là, qui est un personnage très important dans l'histoire, mais je...
Tout le monde le référençait depuis le début, et en fait, c'était parce qu'il était un peu développé et introduit dans un tome qui n'est pas dans la continuité de l'histoire de Yuji, et qui arrive plus après, entre le flashback de la saison 2 et le début de la saison 1 de JJK, du coup. Et puis, en fait, il est complètement pété. Et tout le monde,
on peut peut-être développer vite fait son histoire très rapidement sur Jujutsu Kaisen 0, je pense. Globalement, Yuta, c'est quelqu'un qui a suivi un peu le schéma Gyuji, s'est fait un peu trouver, après s'être fait maudire... et qu'il était un peu à la rue, il savait pas quoi faire, il s'est fait trouver par Gojo, il s'est entraîné dans l'école d'exorciste, on s'est rendu compte qu'il était complètement broken, parce que, devinez quoi, il avait une bonne génétique. Et ça, ce jeu de Kaijun Zero se finit sur le coup la mort de Geto, et un peu pas grand chose en fait au final, juste on voit comment Geto meurt à ce moment-là et on repasse à la suite.
Je veux bien m'expliquer premier degré, parce que je me souviens plus, ce qui se passe, la transition entre la fin de la traque meurtrière, Sukuna qui devient Megumi, ça ne me rappelle plus, et la bataille finale finalement.
En fait, en gros, il y a tout le truc avec la sœur de Megumi qu'ils essayent de secourir. Sauf qu'en fait, à un moment, ils arrivent à la secourir, ils l'amènent dans la barrière, en mode, je ne sais plus pourquoi, parce qu'elle doit passer dans la barrière à un moment donné. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout la sœur de Megumi, c'est une exorciste incarnée, en fait, qui s'est incarnée dans le corps de la sœur de Megumi.
Mais non.
Nous, on croit depuis le début que la sœur de Megumi, elle s'est réveillée à de nouveaux pouvoirs, mais c'est toujours elle, alors qu'en fait, non, elle fait partie des gens chez qui Kenjaku a mis une relique, en gros, et ce n'est pas du tout elle.
C'est la meuf qui est amoureuse de Sukuna.
C'est la meuf qui est amoureuse de Sukuna il y a 1000 ans. Et la sœur de Megumi est morte, en fait. Elle n'existe plus depuis super longtemps. Et en fait, à ce moment-là, Megumi, super choqué, il est au bout du rouleau. Y a tout qui se mélange un peu. En même temps, il y a Sukuna qui active
la condition
qu'il avait fait avec Yuji. Il coupe le doigt d'Yuji. Bref, il arrive à se passer dans le corps de Megumi.
Ouais.
Et là, en fait, il est un peu libre et inarrêtable, en fait.
Et donc, ce qui se passe, c'est que, je ne sais plus pourquoi, on s'en fout, il libère Gojo Satoru, le deuxième plus beau gosse, et ils affrontent Sukuna, le troisième. Non,
en gros, ce qui se passe,
c'est qu'ils se préparent à affronter le boss final.
Ouais, voilà, c'est ça. Sukuna est en liberté. On sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais du coup, la traque mortelle, elle s'est un peu apaisée parce que tout le monde est soit mort, soit.
Si on peut juste clore sur du coup la sœur de Megumi.
Ouais.
Du coup, ce qui se passe, c'est un peu le drame qui va mettre un peu Megumi dans le fond, c'est que on a du coup Sukuna qui possède Megumi, sa sœur qui est possédée du coup par l'amoureuse de Sukuna entre guillemets.
Ouais.
Et ce que Sukuna va faire pour détruire l'âme de Megumi, ça va être de te battre contre sa sœur et de tuer ce qui reste de sa sœur.
C'est ça.
Et c'est un peu comme ça que se conclut du coup cet arc-là. C'est tout ce qu'ils ont accompli. Ils ont réussi à sauver Gojo, mais la sœur de Megumi et Megumi aussi de ce fait.
C'est ça. Mais ce passage-là, pour mettre un peu mes sentiments dessus, c'était absolument horrible. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas sa sœur, il y a une planche très particulière, on voit dans son regard et tout. Moi, j'ai pété mon crâne personnellement. Je crois que je me suis assise par terre parce que j'en pouvais plus.
De mon avis, j'avais rien compris.
Donc honnêtement, je trouve le coup de la sœur, il est un peu sorti au dernier moment. C'est en mode. Moi, la manière dont je l'ai perçu, c'est il a ramené la sœur de Megumi. Ensuite, oh non, attention!
Et il a juste... Oui, non, mais c'est, en vrai, c'est un peu ça. En vrai, c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai eu un peu du mal à comprendre ce qui venait de se passer. J'étais en mode, mais quoi? Mais comment c'est possible? Et tout. Et ça, c'est parce que l'auteur, il est pas clair dans ses explications qu'il peut se permettre de nous faire des coups foireux comme ça. Et oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, moi, j'étais vraiment super choquée. Et quand Megumi devient Sukuna, j'ai tout perdu. Là.
Je vais parler pour passer à la suite après. Non. La bataille finale, bon, je pense qu'il a été un peu pressé par son éditeur pour faire la bataille finale.
Probablement.
Et donc, c'est Gojo, et tout le monde connaît, il dit qu'il va gagner facile, et bah il perd. Le gros nul.
Non.
On est tous
contents.
Oh non. J'ai une qui a pleuré à côté.
Oui, c'est vrai, j'ai pleuré.
Bref. Donc, Gojo affronte Sukuna. Il y a un combat compliqué. Encore une fois, je regardais que les images, je comprenais rien.
Gojo tu lis pas les bulles.
Oui, forcément.
Mec,
Jijika, quoi.
Mais Gojo, vraiment.
Gojo a perdu. Et donc après, ils s'enchaînent tous un contre un. On sait pas trop pourquoi ils font coder un contre un contre Sukuna.
Ouais,
ça dure
honnêtement.
Je vais vous laisser débriefer parce qu'encore une fois, j'ai rien compris. Donc voilà. Et Suguru. Ah non, si. Un truc que je vais dire, vous me laissez parler.
Vas-y.
C'est Kenjaku qui affronte le comique. Et ça, c'était vachement bien quand même. En gros, il va affronter
De tous les combats.
C'est celui-là dont tu te rappelles. Non, en vrai, si, je comprends.
En fait, il affronte un personnage qui a un pouvoir extrêmement fort, donc je ne vais pas entrer en détail, ça va être trop long. Mais en gros, c'est un combat vraiment très particulier qui n'est pas vraiment un combat. Et ça finit, et c'était vraiment bien.
C'est voilà. Ça.
Et bon, vous pouvez parler, puisque j'ai rien compris de toute façon.
Là, le but pour la fin de ce manga, ça va être de faire en sorte d'avoir une fin satisfaisante par rapport au combat. Et donc, comment dire, quand t'as deux des personnages où t'arrêtais pas de dire « Oh, ils sont les plus forts !» Et ça fait vraiment genre... ça fait 200 chapitres qui sont en train de se dire « moi, je suis meilleur,
exactement.
Mais non, mais moi,
c'est
je suis
meilleur. » C'est moi le meilleur.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce que du coup, ils se voyaient vite fait avec... c'était un peu gênant parce qu'il y avait Yuji qui était là avec Sukuna à l'intérieur et Gojo qui était à côté. Ils arrêtaient pas de se battre, quoi. C'était le challenge de la fin de Jijika, de faire en sorte que ça fasse sens. Et honnêtement, il l'a vraiment très bien joué. Pour moi, je trouve honnêtement qu'il a très bien joué cartes.
C'est vrai, il faut préciser quelque chose. Comme a dit Eva, le power scaling est complètement faux. Donc en fait, Gojo et Sukuna sont extrêmement forts. On se rend compte que Sukuna il devient encore plus fort grâce à Megumi en vrai.
Ouais, bien sûr.
Et donc, déjà qu'il était fort, il est encore plus fort. Et en fait, on se rend compte qu'il est immensément plus fort que Gojo,
oui,
je trouve. Et là, tu te rends compte que tu comprends.
Et en plus, à côté de ça, dès que tu vois qu'il fait des trucs de zinzin, à côté de ça, il y a Uraume qui est un peu son bras droit, qui est toujours en train de dire oui, mais là, il est pas chaud là.
Exactement.
Là, il est à 10% là.
Là, mais il fait des trucs.
En soi,
là, il se donne pas à fond. Mais s'il se donne pas à fond et que presque tout le monde est mort déjà, il nous reste quoi?
En vrai, je trouve que tout était plutôt bien justifié, notamment. Premièrement, juste le fait que. Alors, oui, il est dans le corps de Megumi et du coup, il peut seulement utiliser les techniques de Megumi, mais bon, les techniques de Megumi, il peut les utiliser au niveau x1000. Mais le truc, c'est qu'il pourrait reprendre sa forme originale. Le problème, c'est que s'il le prend, il perd quand même, entre guillemets, un heal gratuit, quoi.
Ah bon?
C'était ça.
C'était un truc comme ça, je crois.
Ouais, donc y a ça, donc c'est pour ça qu'il se bat dans la forme de Megumi, mais en même temps, ça lui donne un avantage.
Après, il change de forme, non?
Oui, mais c'est ça, justement. À un moment, il utilise son Joker, si tu veux.
Oui, voilà.
Il peut activer sa forme finale. C'est comme s'il n'était pas assez fort de base, tu vois. Là, il sort les 4 bras, les 12 yeux.
Je trouve que c'était bien expliqué par rapport à ça, parce que du coup, tu voyais Sukuna, il devait gérer plusieurs trucs en même temps. Il devait battre un mec qui était quand même pas mal fort. Gojo, c'est, comment dire, comparé à tous les combats qu'il va y avoir après, il est immensément fort. Il faut aussi qu'il fasse attention, parce que. Le problème, c'est que, peut-être il va réussir à battre Gojo, mais si, à la fin, il a plus d'énergie, il lui manque 5 bras et il a 2 doigts crevés, il y aura juste Yuta, Yuji et absolument tout le monde pour le terminer, quoi. Donc, il fallait qu'il utilise ses cartes, et moi, je trouve qu'il a vraiment bien fait. Et on arrive ensuite, après qu'il ait battu Gojo, on arrive au combat un peu final, mais c'est un peu particulier, parce que c'est pas que Yuji, mais en gros... Les 10 derniers chapitres à peu près, c'est juste Yuji contre Sukuna, et
Et c'est... là, on se demande quand même comment il arrive à le faire.
Bah, honnêtement, je trouve ça aussi, c'est très bien expliqué. Parce que le truc, c'est que du coup, t'as genre 100 chapitres de combat derrière toi, avec ouais, plein de debuffs, plein de moments où t'as Yuji qui en plus, il arrête pas de. Enfin, il est devenu vraiment fort, et même à travers le combat, il gagne, il a un avantage parce qu'il arrive à enchaîner des coups. Donc, en vrai, moi, je trouve que justement, par rapport à ça, il a très bien géré les cartes.
Il y a quand même un plot très très important sur comment Itadori est celui qui peut le battre.
Ah, pourquoi ?
C'est parce que, comme il s'est fait posséder par Sukuna, ouais, il a réussi à copier une version de son pouvoir, de la coupe du coup.
Ah bon ?
Ouais, mais il y a beaucoup d'explications comme ça.
Mais il n'y a pas que ça. Comme il s'est aussi battu contre Mahito, il arrive à percevoir l'âme, et il arrive à utiliser ce pouvoir
âme,
pour couper la séparation entre l'âme de Megumi et celle de Sukuna.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Et c'est très tiré par les cheveux, mais en même temps ça.
C'est compréhensible.
Comme tu l'expliques, je trouve ça très.
Mais en même temps, ça fait une bonne conclusion.
C'est pas tant qu'il bat Sukuna, c'est qu'il arrive à virer Megumi, à séparer Megumi et Sukuna, ce qui fait que Sukuna tout seul, bah, il est rien.
Il y a beaucoup d'explications qui fait que à chaque fois, et en plus c'est un peu expliqué à la fin du manga, mais ils ont vraiment eu de la chance par rapport au pouvoir qu'ils avaient et par rapport aux sorciers qu'ils avaient, parce que dans n'importe quel autre contexte, il y aurait juste, enfin, Sukuna aurait juste gagné, quoi.
Non, moi par contre, ce que je voulais, enfin, je suis pas complètement d'accord avec ce que t'as dit, Melwan, sur le fait que ce soit justifié ou quoi, parce qu'en fait, moi je trouve que en fait, je reviens à cette histoire de power scaling. Sukuna est immensément fort, il a tué Gojo et apparemment il était même pas à fond, et après ça on a en fait, moi ce que j'ai pas trop aimé dans la fin, c'est le fait que j'ai trouvé ça très répétitif, et le fait que pendant un moment, pendant une grande partie des chapitres du dernier arc, la bataille de Shinjuku, je crois, on a plein de gentils en fait, qui viennent se battre en 1v1 ou quasi 1v1 contre Sukuna. Et en fait, et à chaque fois, ces personnages, on les présente en mode « Oui, il est super fort, il a le potentiel de Gojo, il est trop fort. » Et à chaque fois, ce potentiel, on le voit, mais c'est frustrant parce que je trouve qu'on le voit pas assez. Et ça, je pense que c'est aussi un problème dans le manga en général, c'est que souvent, il y a plein de choses... Enfin, pour moi, le manga, il n'est pas bien clos parce qu'il y a des choses où on n'en voit pas vraiment la fin. On n'a pas vraiment vu le potentiel qu'on nous a annoncé au départ. Et je trouve ça un petit peu...
Après, le truc...
Un petit peu dommage. Voilà.
Après, le truc, c'est que quand Yuta avait pris le corps de Gojo, il avait vraiment bien dit qu'il pouvait... pas du tout, comment dire, que c'était pas seulement à propos des pouvoirs qu'il y avait le potentiel, etc., mais aussi juste par le fait de bosser, tu vois, genre, c'est-à-dire que je me souviens que quelque part dans le manga, il y avait écrit combien de temps Gojo a dû s'entraîner pour atteindre sa puissance actuelle. Donc en soi, c'est pas parce qu'il a le potentiel qu'il va forcément tenir tête, et je trouve aussi que, enfin, pour prendre comme exemple Kashimoku,
l'électricité là.
Ouais, l'électricité. Il est le plus fort de sa génération, je sais pas quoi. Mais t'as Sukuna en face, donc il a littéralement duré un chapitre.
C'est ça.
Voilà, donc honnêtement, je trouve que le power scaling est plutôt bien quand à côté t'as Gojo qui est présenté comme le plus fort tout court. Ça y dure 60 chapitres.
Les amis, au lieu de parler de ça, peut-être.
Je suis toujours pas d'accord, mais c'est pas grave.
Enfin, la dernière chose que je lis.
C'est pas grave. Il y a d'autres choses dont je voulais aborder, et c'est dommage parce qu'en fait j'aurais pas assez de temps pour parler de tout ce que j'ai envie de dire sur Jujutsu Kaisen. C'est dommage, c'est pas grave. En fait, au début, quand tu commences Jujutsu Kaisen, on peut croire que oh vas-y, trop bien, il y a des femmes qui sont cool, qui sont bien écrites, et en fait au final je trouve ça un peu moyen quand on a fini l'œuvre au total et qu'on fait une rétrospective de tout, parce qu'à partir d'un certain point du manga, toutes les femmes qu'on rencontre, elles sont soit pas du tout importantes pour l'intrigue, soit elles sont insupportables.
Soit qui insupportable ?
L'ange. Anna, par exemple, je la trouve insupportable. Voilà, l'ange et tout ce personnage, je ne l'aime pas du tout. Mei Mei, c'est une pédophile. Et je ne l'aime pas trop non plus. Et à part son trait de caractère d'être une femme vénale et sexy, bah, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre derrière. Ouais, on ne sait pas grand-chose d'autre sur elle. Les autres femmes importantes de l'histoire, on a Nobara, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, se fait off assez tôt dans le manga, qui disparaît, qui réapparaît à la fin pour sauver un peu tout le monde de nulle part.
Le blond, elle est bien. La femme aux cheveux blonds.
Il y a Yukitsu, oui, il y a elle. Mais elle se fait off aussi. C'est un personnage.
Les passages meurent.
Non, c'est pas vrai, parce que quand tu regardes tous les personnages, en vrai, il y a qui meurt dans l'histoire ?
Gojo.
Ouais, il y a Gojo. Il y a Nanami. Yuta meurt pas. Il y a Yuki qui meurt. Chozo, il meurt. Ça, j'ai...
Ah, voilà, tu vois. Donc
Chozo, final, il meurt. Moi, ouais, mais au final, quand tu vois le nom de personnage à la fin, en vrai, ils meurent pas tous non plus.
Honnêtement.
Mais bon, c'est pas grave qu'elle meure. Je dis pas que c'est grave. Je dis juste qu'au final, je trouve que c'est dommage que les personnages, ouais. Bah, c'était bien parti, mais finalement, ça a pris un virage bof.
Ouais, c'est clair. Et parce que enfin, Gege a développé des personnages comme Nanami. J'ai trouvé qu'il était vraiment bien développé. Ouais. Geto, même Gojo.
Ouais, bien sûr.
Yuji, Sukuna, mais bah, du coup.
Mais bien sûr, et c'est vrai que bah. Pour les femmes, du coup, bah bon, ce sera pas cette fois-là qu'on aura un shonen avec des personnages féminins vraiment bien, vraiment, vraiment bien écrits.
Est-ce qu'il y en a un on se demande.
Quoi un shonen peut-être, je sais pas, j'ai pas vu tous les shonen de la Terre. Là, comme ça, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Il y a des mangas avec des personnages féminins très bien écrits, ça c'est évident, mais des shonen, ça je ne sais pas. Et aussi, autre chose que je voulais dire, c'est qu'au final, je trouve qu'il y a beaucoup. D'arc, pas vraiment d'arc, mais de passage, d'intrigues en fait qui ne sont pas finies correctement. Par exemple, le truc de fusionner tous les humains, bah, enfin, j'ai tout relu, j'ai relu une bonne partie du manga hier soir et en fait, on n'en entend plus trop jamais parler de ça.
Et, ouais, ça, c'est vrai.
Et ça, c'est un peu passé sous le tapis en mode ouais, ok, on a voulu faire ça, mais en fait, on n'en parle plus, c'est pas grave et tant pis. Après, et ça, c'est un peu con. Et aussi, autre chose que j'ai un peu pas trop aimé et que je trouve que ça aurait pu être mieux à ce niveau-là, c'est que. Il y a un moment où on va vers la fin toujours où on a un manque d'émotion en fait de la part de beaucoup de personnages quand Gojo revient. Moi je m'attendais à ce que on ait au moins un chapitre où c'est un peu les retrouvailles, ça aurait marqué un peu une pause et tout. Mais non, tout de suite on embraye sur les combats. Après il y a un peu des flashbacks quand même, on revoit un peu Gojo etc. Mais je trouve ça pas. J'aurais aimé que ça soit un peu plus appuyé et que ça soit un peu plus
bah moi pour
un peu plus axé sur les émotions des personnages parce que là, et même à la toute fin, quand c'est complètement fini, j'ai l'impression qu'il y a le chapitre à la fin, hop, Sukuna il est mort, et après, tout le monde s'en fout, tout le monde passe à autre chose, et puis tout le monde est en mode on continue notre vie d'exorciste à l'école d'exorciste, voilà. Et bon. Ils sont pas du tout, j'ai l'impression qu'ils sont pas tristes, pas plus traumatisés que ça de ce qui vient de se passer.
Pour la mort de Gojo, moi déjà, je suis pas du tout d'accord avec toi, la mort de Gojo, on parle juste de celle-là.
Je parle juste de la mort de Gojo.
Je trouve ça vraiment très bien, parce que au tout début, justement, quand. Les personnages pensent qu'ils t'adorent et meurent, c'est exactement pareil ce qui se passe. Ils sont en mode, bon, il est mort, mais maintenant qu'on a un peu pleuré, on passe à la suite. Et c'est tout.
Ouais,
mais justement, il n'y a pas ce moment où il pleure un peu.
Ouais, bah, puis honnêtement, je
trouve. Oui, non, mais ça, je le comprends, mais après la fin du manga, ça aurait pu être présenté, tu vois.
Il n'y a pas une ellipse et après, on reprend l'histoire.
Bah, le truc, c'est qu'il y a aussi le développement des relations entre les personnages, je trouve, il n'est pas.
Ça aurait pu être mieux fait, en fait.
Ouais, c'est ça.
Mais après, pour moi, il y avait du potentiel.
Avec Gojo.
Ouais, c'est ça, il y avait du potentiel à certains niveaux entre des relations entre des personnages qui a. Pas été exploité et je trouve ça un peu
dommage. Après, on dit que ça fasse pas tout la faute de l'auteur. Hein. Il a probablement été vraiment très pressé et la fin.
Non, c'est sûr. Moi, je dis juste que c'est dommage quoi.
C'est un peu perdu en fait en passant d'avant Shibuya après Shibuya. Au début, c'était un peu la déconne et après, c'était vraiment la guerre quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, après, il y a eu une vraie scission entre avant Shibuya et après Shibuya. Maintenant,
Je vais finir sur Gojo est moche. Il pue.
Ah ouais.
C'est un déglingo.
Je suis pas d'accord.
Voilà, c'est les mots de la fin.
Je suis pas d'accord.
Je vous dis au revoir. Allez, à la prochaine.
À bientôt.
Et dites au revoir à Aiva. Oh, et je vous mets la meilleure musique de Jujutsu Kaisen. Je sais pas comment elle s'appelle. Voilà, c'est parti. Let the 夢の粒